La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue sur RFI. Merci d'être à l'écoute de votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. Des hommes et des femmes qui, depuis des siècles, sont fascinés par l'univers magique d'un monde parallèle où les forces du mal menacent l'ordre établi.
En toute conscience, je puis vous affirmer que cette fille est ensorcelée. Savez-vous que le pays est à deux doigts de sa perte? L'ennemi est chez nous, monsieur, dans nos propres foyers.
Nous sommes en 1692. 19 personnes soupçonnées de sorcellerie sont pendues dans le village de Salem, dans l'état américain du Massachusetts. Une chasse aux sorcières historique immortalisée par le film de Raymond Rouleau, Les sorcières de Salem, avec Simone Signoret et Yves Montand. 325 ans plus tard, en juillet dernier, les noms des 13 femmes et des 6 hommes exécutés ont été gravés sur une stèle dédiée à leur innocente mémoire. Pour autant, la sorcellerie appartient-elle au passé ? C'est tout le contraire, nous dit l'anthropologue Jean-Pierre Dauzon. Dans notre univers hyper technologique et néolibéral, où l'esprit saint émane du dieu capitalisme, la figure ancienne du conspirateur multiplie ses apparitions. Le diable ou les forces du mal ainsi globalisées favorisent les théories du complot, dont le leitmotiv est aussi le sous-titre de la célèbre série X-Files, « La vérité est ailleurs ».
J'ai eu une vision. Je vois le visage d'une femme. J'entends des chiens aboyer. Ils sont là dehors.
J'ai fait appel à vous parce que je sais que vous croyez à ce genre de phénomène. Je suis pas dans les petits papiers du FBI ces temps-ci.
Scully ?
Mulder ?
Père Joe parle de connexion psychique.
Vous croyez à ce genre de choses?
Disons que je veux y croire.
N'abandonnez pas.
Vous les voyez?
Je vois des yeux grands ouverts. Mes visions sont l'œuvre de Dieu.
Ce n'est peut-être pas Dieu qui est à l'origine de tout ça.
Qu'est-ce que vous voyez? Mon père!
J'en ai assez de chasser des monstres dans le noir.
C'est ici.
J'ai besoin de toi dans cette affaire.
C'est ici. C'est ici. Ici.
J'ai besoin de vous dans cette affaire. Bonjour,
Jean-Pierre
Dauzon.
Bonjour.
Et en cet automne 2017, vous livrez un petit livre étonnant. Vous étudiez la sorcellerie contemporaine et ses résonances avec les théories du complot dans un contexte d'accroissement des inégalités, d'épidémies mortifères et d'expansion des fondamentalismes religieux. Mais si l'anthropologue que vous êtes parcourt les villages africains depuis les années 70, vous avez choisi d'ouvrir votre livre sur les héros de la série X-Files, Dana Scully et Fox Mulder. Pourquoi ?
Ben tout simplement parce que j'étais, puisque c'est une série d'il y a maintenant 20 ans, j'étais un téléspectateur assidu. Ça me plaisait bien. Et alors, au premier degré et au second, évidemment. Mais le second degré, précisément, c'était tout simplement parce qu'à l'époque, j'avais travaillé en Côte d'Ivoire sur la sorcellerie quelques années auparavant, ainsi que sur les prophétismes qui luttaient contre la sorcellerie. Et au lieu, à l'époque, que cette série m'évoque des choses qui auraient à voir avec ce qu'on appellerait aujourd'hui les théories du complot, puisque la série elle-même parle de cela, n'est-ce pas ? Ça m'a évoqué immédiatement, ce que j'avais moi-même étudié en Afrique. Et donc, le modèle, disons, de la sorcellerie tel que j'avais pu le comprendre. Et du coup, ça m'a fait regarder aussi cette série avec ce regard-là. Donc c'est pour ça que je réinscris, ou du moins je débute ce livre par X-Files, d'autant plus que la série était très en avance.
Et dans cette série, X-Files, justement, à travers ces deux héros, Dana Scully et Fox Mulder, c'est toute une manière double dont fonctionne le monde qui est évoquée, avec d'un côté la rationalité de Dana Scully, rationalité prouvée, et de l'autre les révélations venues d'ailleurs de Fox Mulder. C'est donc, en quelque sorte, le fonctionnement même de la théorie du complot que vous retrouvez incarné dans cette série.
Ou plutôt, le modèle de la sorcellerie tel que... parce que le modèle de la sorcellerie se présente ainsi, en gros. Et d'ailleurs, mes interlocuteurs au village, en Côte d'Ivoire, me disaient, avec cette formule en français, ils me disaient, le vis-à-vis et le double.
Alors, c'était dans quel village, justement ?
Ça se passait dans le centre-ouest, ivoirien, en pays bété. Et le village s'appelait Dobé Maïdio. Voilà. Donc, c'est du concret. Ils m'expliquaient, mais c'était valable pour d'autres villages de la même région, c'était de dire, il y a ce qui se passe quand on est comme cela, entre nous.
Comme nous dans ce
voilà,
studio.
Comme nous sommes en ce moment. Et puis, il y a, alors c'est pas en permanence, n'est-ce pas, mais il y a un autre ordre du réel qui est le double. Et le double intervient fréquemment dans le réel, dans ce vis-à-vis. Bien sûr, il intervient lorsqu'il y a des événements qui se passent. Une maladie grave, une mauvaise récolte, toute une série d'événements qui peuvent être expliqués par cette arrière-scène qui est le double. Une arrière-scène où il y a des acteurs qui sont des gens qui agissent et qui viennent intervenir dans la vie ordinaire. Et les gens exposaient ça avec beaucoup de tranquillité en même temps. Et moi-même, à un moment donné, je suis devenu familier de ces affaires-là. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce monde en double, en quelque sorte, cette vie en double, parce que c'était de cela qu'il s'agit, après tout, ça marche assez bien. Parce que le monde en double explique tout. Si vous voulez, explique tout, puisque rien ne peut échapper à, par exemple, un accident. Alors, bien sûr, un accident, nous, on dit, c'est pas de chance, n'est-ce pas? On dit, c'est pas de chance.
Nous, les Occidentaux.
Oui, on a tendance à dire, c'est pas de chance. Oui, mais le pas de chance, c'est pas suffisant comme explication. Donc, il faut expliquer un peu mieux. Et d'ailleurs, nous-mêmes, ici, parfois, chez nous, on ne se suffit pas de ces explications.
Alors, si vous identifiez la théorie du complot comme une théorie produite outre-Atlantique, par l'imaginaire paranoïaque de la puissance dominante américaine qui s'illustre justement dans ces séries télévisées. En revanche, le phénomène sorcier, lui, vous l'avez rappelé, est présent sur tous les continents et c'est bien dans les Afriques, de l'Est et de l'Ouest, que vous l'observez depuis plus de 30 ans. Alors historiquement, dans les sociétés traditionnelles, vous venez de l'expliquer, on vit avec le réel et l'imaginaire, et dans ce double-là, dans ce vis-à-vis d'un côté qui est le réel, et dans ce double qui est le monde imaginaire, quel est le rôle du sorcier dans la tradition ?
Ah bien, le rôle du sorcier, il est celui, normalement, de l'agent maléfique, en quelque sorte, celui qui... Mais tout le monde peut l'être. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette affaire de la sorcellerie, c'est que là où c'est compliqué à expliquer, c'est que quelque chose de nous-mêmes, sur lequel on n'a pas forcément la maîtrise. Donc ça évoque l'inconscient, ça évoque Freud en quelque sorte. Une partie de soi peut très bien vouloir du mal en quelque sorte. Hein. Et cet acteur en soi-même en quelque sorte, d'ailleurs en Afrique il y a un nom pour nommer ça. C'est-à-dire il y a une sorte de composante de soi-même, une composante de la personne qui porte un nom et qui est cette composante qui va se transformer la nuit, en général, en sorcier et intervenir avec les autres, parce que c'est une œuvre collective, cette sorcellerie, pour attaquer telle ou telle personne. Ou voilà. Et donc, ça évoque... c'est un monde très intéressant parce qu'il y a à la fois des ressorts intellectuels dans cette histoire, donc des modèles explicatifs, mais c'est aussi des ressorts qui touchent aux affects, c'est-à-dire à tout ce qui fait que tout humain que nous sommes, quelque Africain ou non, nous avons des sentiments troubles en général, n'est-ce pas? Nous avons des sentiments de jalousie, nous avons des sentiments de rancune, nous avons du ressentiment en général, et quelquefois nous avons un mal fou à les refouler en quelque sorte, hein, mais pourtant nous les avons en nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous le savons très bien. Or là-bas, en particulier en Afrique, tout ça est explicité avec des noms, si vous voulez. C'est-à-dire que notre partie, en quelque sorte, pas très sympa, pas très bonne, en quelque sorte, eh bien, elle existe dans un champ qui est celui du double et qui fait que, finalement, on va faire du tort aux autres.
Et ces pratiques sorcières, écrivez-vous, ne sont pas solubles dans la modernité. C'est tout le contraire. Plus la société africaine se modernise, plus la frontière entre imaginaire et réel disparaît.
Pendant qu'il était en prison, il a reçu la visite de l'ange Gabriel Tu iras dans toutes les nations apporter la bonne nouvelle à tes frères noirs, mais sans succès au Liberia, son pays d'origine, rejeté par la méchanceté des hommes et des femmes des globalés, son village natal, là où il a été humilié. Il a maudit son village en envoyant une foudre le détruit. Ensuite, il a demandé pardon humblement au Seigneur d'épargner son village. Ainsi qu'accompagné de deux femmes, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1913. Ses premiers disciples étaient le peuple du littoral ivoirien qui vivait de la pêche, ou comme Jésus a choisi ses disciples en bordure de mer. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Le prophète William Wade. William Wade. 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 Arrête.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
Nous sommes à la fin des années 80 en Côte d'Ivoire, un moment où les mouvements prophétiques nés au début du XXe siècle, la suite de la colonisation, prennent un essor sans précédent. Les Blancs n'ont pas le monopole de la religion. Les Noirs, eux aussi, ont leur Dieu. Et c'est justement William Wade Harris, autoproclamé prophète et originaire du Liberia, qui est l'un des initiateurs de ce phénomène. Alors Jean-Pierre Dozon, qu'y a-t-il de commun entre tous ces prophètes que vous avez pu observer et étudier? Je le rappelle, vous êtes anthropologue.
Bien, le point commun de tous ces prophètes et tous ces prophétismes, et ce n'était pas qu'en Côte d'Ivoire, on trouve ça au Congo, dans l'Est de l'Afrique, au Kenya, ça consistait précisément à lutter contre la sorcellerie. La cause commune, on pourrait dire, de tous ces prophètes, avec des variations, mais ça a été de dire, on va s'attaquer à cette sorcellerie qui, bien loin d'être traditionnel, d'être archaïque, est devenu un phénomène de la modernité elle-même, puisque la sorcellerie accompagne tous les mouvements de transformation et toutes les choses qui de plus en plus font des différences entre les gens. C'est-à-dire que les urbains et les ruraux, les salariés et les paysans, tout ce qui tout d'un coup, les gens qui sont instruits, ceux qui ne le sont pas, tout ça va créer un monde de différenciation ou d'inégalité, et dans lequel va s'engouffrer la sorcellerie comme explication aussi des choses. C'est-à-dire à la fois de la réussite des uns ou de l'échec des autres. Le monde des transformations de la modernité, c'est en gros cela. Il y a des gens qui s'enrichissent, par exemple, et d'autres qui ne s'enrichissent pas, et d'autres qui vont échouer. Et donc le monde de la sorcellerie va gagner les villes, va gagner le salariat, va gagner le pouvoir, l'État. Et donc, bien loin d'être villageois, la sorcellerie va se nicher, en quelque sorte, dans toutes ces sphères salariales, étatiques et urbaines.
Alors, si les prophètes, donc, s'attaque à la sorcellerie en détruisant par exemple les fétiches, vous le décrivez dans votre livre, ils veulent faire triompher le bien sur le mal, et du coup les phénomènes de chasse aux sorciers se multiplient 400 ans après les sorcières de Salem.
L'école des filles est installée dans un ancien garage au milieu des carcasses de camions. Les garçons dans un autre bâtiment à 300 mètres de là. Ils sont une centaine au total au centre du père Giovanni, tous des enfants des rues, et plus de la moitié sont des enfants dits sorciers, autrement dit pour le père Giovanni, des boucs émissaires.
Quand il y a quelqu'un qui meurt, on ne pense pas de quoi il est mort, mais on se demande qui l'a éliminé. Et alors on doit trouver quelqu'un qui en soit responsable, et souvent ce sont les enfants qui en seront.
Par Kakisangani, depuis la guerre, il n'y a plus de vieux. Alors c'est l'enfant, toujours porteur d'une part de mystère, qui est condamné, et parfois par sa propre mère.
Parfois on arrive à vouloir le tuer, l'éliminer, et même lorsqu'il vient dans notre centre, il y a eu des familles qui sont venues le rechercher parce qu'un autre événement s'était produit, un événement malheureux, et on disait que c'était l'enfant qui avait quitté et qui opérait de loin pour causer du mal.
Qu'est-ce qu'elle voulait faire à la famille quand elle récupérait cet enfant?
Elle voulait l'éliminer.
La tire courante, la République démocratique du Congo, est une vaste région du centre de l'Afrique.
Pour le père Giovanni, l'éducation et la lutte contre la misère sont les seuls moyens d'enrayer ce phénomène, phénomène malheureusement aggravé par les églises éveillées.
Là où des gens se disent pasteurs, capables de délivrer l'enfant avec des pratiques incroyables comme un jeûne de 6 jours, et on a eu des cas, des enfants qui sont morts après 3-4 jours de jeûne.
Ah.
Bernard Najot qui sent gagner RFI.
Les enfants sorciers, bouc émissaire en RDC, un reportage d'archives du début des années 2000. Comment l'anthropologue que vous êtes, Jean-Pierre Dauzon, peut expliquer les facteurs qui conduisent à ces pratiques?
Alors oui, alors là, c'est plus les prophètes tels qu'on en a parlé juste avant. Il y a une nouvelle étape qui s'est passée. C'est les fameuses églises évangéliques ou pentecôtistes avec des pasteurs qui vont se livrer. Aujourd'hui, c'est un phénomène urbain de mégapole. C'est plus la sorcellerie, absolument, c'est le diable. On passe à un niveau supérieur dans la manière de schématiser tout. Et ça veut dire en gros que les gens, y compris les enfants, ceux qui ont une expérience de vie extrêmement courte, sont susceptibles d'avoir le diable en eux. Et donc du coup, non seulement on va les exorciser, mais éventuellement ils vont être mis à mort. Donc on a vraiment une chasse aux sorciers et aux sorcières qui va s'opérer, mais ce sont des phénomènes qui n'existaient pas autrefois. Là, pour le coup, ces phénomènes-là, si vous voulez, dans les villages tels que j'ai parlé de la sorcellerie l'autre fois, il n'y avait pas des choses comme ça.
Autre exemple d'affrontement mystique entre les forces du bien et du mal, la guerre civile en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011.
C'est d'abord un engin de travaux publics qui est venu déterrer ce rocher planté entre les deux voies de la route. Puis les combattants pro-Ouattara ont fouillé la terre à la recherche de matériel magique qui aurait pu être enfoui sous la pierre. Un soldat sort du sol deux pièces de tissu suspectes sous le regard du lieutenant Daniel Dodo, un officier, comme l'indique son t-shirt, qui appartient au bataillon mystique.
C'est vrai que nous utilisons les armes pour pouvoir conquérir des positions. Mais dans ce cas précis-là, c'est mystique. Ces monuments ont été érigés par Gbagbo Laurent d'un souci de pouvoir gouverner sans partage de pouvoir avec d'autres personnes. Mais il reste maintenant à conquérir le terrain et puis de façon favorable les détruire.
Les habitants du quartier voient avec satisfaction et beaucoup d'espoir la destruction de cette arme occulte.
Je suis content qu'on enlève. Aujourd'hui, on dit que ces monuments qu'ils ont mis, c'est ça qui apporte vraiment le malheur pour la Côte d'Ivoire. Quand toutefois il y a le monument et que le sang coule, ça donne le pouvoir à Laurent Gbagbo. Bon. C'est déterré, c'est fini.
Gris-gris et forces magiques font partie intégrante de la bataille d'Abidjan. La plupart des combattants pro-Ouattara portent un antiballe, bonnet, gilet, bâton de pouvoir censé les protéger contre les tirs ennemis. Laurent Corot, Abidjan, RFI.
Nous sommes en Afrique, mais l'Afrique a-t-elle le monopole des crises diaboliques?
Absolument pas. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer, parce qu'autrement, on va enfermer l'Afrique dans quelque chose qui lui est spécifique. Et c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, précisément, on a un phénomène beaucoup plus global, même si l'Afrique est très illustrative, si vous voulez, sur ce terrain-là, parce qu'elle cumule plein de choses. Mais le monde dans lequel nous sommes est de plus en plus pris là-dedans. Les théories de complot en sont une composante, mais regardez ce qui s'est passé avec Bush, par exemple, qui était lui-même un born again, c'est-à-dire un évangélique. Bush croyait dur comme fer qu'il allait, d'une part, qu'il était dans le bien, évidemment, qu'il était béni par l'Esprit Saint, mais qu'en face, il avait le diable et l'axe du mal. Donc, vous voyez, on a une crise mondiale qui s'est faite sur le même schéma. Et donc, véritablement, nous vivons une époque de crise diabolique et l'Afrique n'en est qu'une composante.
Le futur est-il sorcier? C'est à suivre dans la marche du monde où les forces du bien et du mal semblent avoir déserté le seul univers de notre imaginaire. Reviens, Harry Potter.
Au fait, je m'appelle Ron Weasley. Et moi, Harry Potter. Alors c'est vrai. Je veux dire, tu as vraiment une quoi? Une cicatrice?
Ah, oui.
Oh, c'est dément! Vous n'auriez pas vu un crapaud? Un garçon qui s'appelle Neville a perdu le sien.
Non?
Nom d'une chouette! Tu es Harry Potter? Je suis Hermione Granger. Et toi, tu es...
Moi, Ron Weasley.
Enchantée. Vous devriez mettre vos robes de sorcier. On ne va pas tarder à arriver.
C'est la suite de La Marche du Monde sur RFI. Nous cherchons la vérité ailleurs, comme nous dit invite la série américaine X-Files, mais aussi l'anthropologue Jean-Pierre Dauzon. Il publie La vérité est ailleurs, sorcellerie et complot, un petit livre, mais un grand texte. Thank you.
Toukouzou Ozalem, Côte d'Ivoire. Papa Nouveau célèbre la cérémonie pour les femmes qui ont accouché dans l'année.
Mukundu Kiandi Wajini kameso muba bonso no bakunda ngavantoto inga yandi wavanga ntima miawu mia mionso no yeukenganga mavanga mauma monso. Amen.
Kamba, Zaïr. La foule est venue en masse à la Nouvelle Jérusalem africaine, lieu de naissance du prophète Simon Kimbangu.
Vous êtes sur RFI, nulle part ailleurs, vous ne pouvez entendre de tels sons d'archives enregistrés en Côte d'Ivoire en 1978, des sons qui font le miel des oreilles de Jean-Pierre Dozon et qui évoquent les figures de Papa Nouveau Simon Kimbangu, deux prophètes de l'histoire africaine. Que représentent-ils ?
Ah, c'est des moments. Simon Kimbangu est le plus connu puisqu'il a donné son nom à une église, l'église Kimbanguiste, qui est aujourd'hui une église internationale, hein, qui est installée en France, etc. Papa Nouveau est un prophète moins connu puisqu'il est resté en Côte d'Ivoire. C'est un héritier du fameux William Wade Harris, mais qui a joué un rôle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire très important. Donc ce sont ces personnages-là qui ont lutté contre la sorcellerie, mais en même temps, ils ont été des personnages liés au pouvoir politique en Côte d'Ivoire très étroitement. Et donc, ce sont eux qui ont entouré, comme je l'avais expliqué dans un autre livre, qui ont entouré le personnage d'Oufouette Boigny d'un halo prophétique. Parce que Oufouette était considéré par eux comme un prophète. Oufouette Boigny était considéré par Papa Nouveau et beaucoup d'autres comme étant lui-même un prophète. Il y en a un, par exemple, qui a eu cette formule extraordinaire. Il a dit « Si tu veux voir Dieu, va à Yamoussoukro ». Vous savez, Yamoussoukro, c'est le miracle même, puisqu'il a transformé son village en ville, et en une ville ultra moderne. Parce qu'à chaque fois, ces prophètes sont des prophètes de la modernité. Je me souviens de prophètes que j'ai bien connus. Ils me disaient, regarde, on a l'électricité ici. L'électricité, pour eux, c'est la preuve, c'est la bonne sorcellerie. Parce qu'ils avaient une façon de parler de la sorcellerie. Ils ne parlaient pas du diable, justement, pas comme les évangéliques. Ils disaient, il y a la bonne sorcellerie qui nous permet d'avoir de l'électricité, des voitures, enfin c'était des partisans de tout cela. Par contre, la mauvaise sorcellerie, c'est tout ce qui fait qu'il y a du mal, les gens se jalousent, empêchent les uns les autres de réussir, etc. Voilà.
Alors Jean-Pierre Dozon, vous rappelez la figure tutélaire de Fouette Boigny, donc premier président de la Côte d'Ivoire, président aussi qui a eu une importance absolument fondatrice dans toutes les indépendances de l'Afrique de l'Ouest et qui a été un des pères fondateurs de la France-Afrique. Mais en ce qui concerne justement cette relation au phénomène sorcier, et qui n'a jamais été aussi vieille, vivant et qui se concentre aujourd'hui autour de ces présidents newborn. On a cité Bush tout à l'heure. On parle là maintenant de la présidence d'Oufouette. Est-ce que cela voudrait dire que finalement, dès les indépendances, ce lien entre pouvoir et sorcier existe ?
Oui, il y a toujours eu autour des pères de l'indépendance, d'ailleurs le fameux livre de Amadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages le dit explicitement. C'est un grand, grand livre d'anthropologie politique, on pourrait dire, de compréhension de ce que sont les pouvoirs d'État africains survenus après les indépendances. C'est acquis. Il y avait le pouvoir et il y avait tout un espace occulte à côté d'eux. Et cet espace occulte était occupé éventuellement par... ça pouvait être un marabout, ça pouvait être tel ou tel personnage qui était proche du président et qui faisait que, quand on a du pouvoir, on ne peut pas l'exercer sans quelque pouvoir occulte à côté. Autrement dit, c'est une façon de penser la question du pouvoir d'une façon générale. Parce que le pouvoir, une fois qu'on l'occupe, on le sait bien, y compris dans nos sociétés, il y a une transfiguration, si vous voulez. On passe de l'autre côté du miroir. Et donc, en Afrique, c'est formidable de ce point de vue-là, parce que tout ça est dit de façon très claire, vous voyez. Et donc, en effet, le pouvoir ne peut pas être simplement un pouvoir qui émanerait du peuple, pointerait. Donc, il faut avoir quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, ceux qui n'en ont pas ont des problèmes, en général.
Par ailleurs, l'Afrique n'a pas le monopole de cette relation, justement, aux forces de l'au-delà, à la sorcellerie, aux prophètes, puisque ces religions néopentecôtistes se portent très bien dans les Amériques du Sud et du Nord, où l'on voit se multiplier des églises et où l'on voit aussi intervenir les églises au plus haut sommet de l'État. C'est le cas aux États-Unis avec le célèbre, justement, Axe du Mal, formule créée par George W. Bush, président Newborn, qui développe cette rhétorique empruntée au pasteur évangélique dans son discours de l'État de l'Union. Nous sommes le 29 janvier 2002.
Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th.
Certains de ces régimes ont été discrets depuis le 11 septembre, mais nous connaissons leur vraie nature. La Corée du Nord s'arme de missiles et d'armes de destruction massive alors que la population meurt de faim. L'Iran, de manière agressive, active ses armes et exporte la terreur pendant qu'une minorité non élue réprime l'espoir des Iraniens pour la liberté. L'Irak continue de répandre son hostilité à l'égard de l'Amérique et à soutenir les terroristes. Le régime irakien a tenté de développer l'anthrax, le gaz moutarde et les armes nucléaires depuis plus de 10 ans.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Ces pays font partie de l'axe du mal. La formule est lâchée, une rhétorique qui n'a cessé d'enfler depuis ce fameux discours de 2002. Sauf que la présidence Obama a rompu avec ce discours. Jean-Pierre Dozon, comment pouvez-vous affirmer qu'il reste dominant ?
Oh, je pense. Il y a, voilà, c'est une anthropologie de l'Amérique, si vous voulez, mais il y a en elle une composante messianique, si vous voulez, très forte depuis la naissance de ces États-Unis, depuis leur indépendance en tout cas, qui fait qu'elle porte un peu le destin du monde, en quelque sorte, sur ses épaules. Il y a des variations, mais il y a quelque chose de cela, y compris actuellement chez Trump, même si c'est pas un évangéliste, lui, mais ça reste une composante forte de ce grand pays qui, lui-même, comment dirais-je, se pense comme étant le monde.
Alors, d'autre part, la théorie du complot bénéficie du formidable impact des réseaux sociaux, dont d'ailleurs les groupes les plus engagés dans les croisades religieuses se sont emparés vitesse grand V. Encore une fois, la modernité semble servir les causes les plus obscures. Mais la modernité, Jean-Pierre Dozon, est-ce que c'est pas aussi la multiplication des injustices, du chômage et, au fond, des grandes souffrances ?
Bien sûr. D'ailleurs, l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un creusement des inégalités, comme on les voit maintenant, entre non seulement les pays, mais au sein des pays, entre les populations elles-mêmes, aussi longtemps que la souffrance s'oppose de façon radicale à l'accumulation de richesses, en quelque sorte. Et là, à mon avis, il y a là la matière même pour qu'il se développe des théories du complot pour se dire qu'après tout, ceux qui ont le pouvoir à l'échelle du monde sont des gens qui tirent les ficelles, mais les tirent pas de la manière dont ils disent qu'ils les tirent. C'est-à-dire qu'ils complotent en permanence pour garder leur pouvoir. Ils ne cessent d'inventer des choses, ils ne cessent de mentir en quelque sorte, et nous, gens du peuple, les exclus, etc., nous comprenons en quelque sorte qu'ils mentent, mais qu'ils tirent les ficelles quelquefois avec, je veux dire, avec les complicités. Alors c'est, ça peut être parfois interprété comme des complicités liées aux extraterrestres, par exemple. C'est-à-dire que on a, à partir de là, c'est ce qui se passe même aux États-Unis, c'est-à-dire que le pouvoir sait des choses, n'est-ce pas, qu'il ne nous dit pas. Hein. Voilà, il ne nous dit pas tout, comme on dit. Et par exemple, on sait qu'il y a des extraterrestres qui ont atterri sur Terre il y a de cela 30 ou 40 ans. Et ils sont complices entre eux, entre les puissants de chez nous et les puissants d'ailleurs. En quelque sorte, il y a une fondamentale complicité pour comploter contre nous et faire de nous des êtres presque non humains, en quelque sorte.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous nous demandons si le 21e siècle sera un siècle sorcier à la lumière des analyses de l'anthropologue Jean-Pierre Douzon, rejoint par notre grand reporter Olivier Roger, l'un des rares journalistes français à avoir couvert l'épidémie Ebola, une épidémie qui a largement alimenté la crise diabolique que décrit Jean-Pierre Douzon dans son livre Sorcellerie et complot. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et merci de venir partager votre expérience en Guinée.
La Guinée, où Ban Ki-moon est arrivé ce matin à Conakry. Le secrétaire général des Nations Unies poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest dans les pays les plus touchés par Ebola. Et comme au Liberia et en Sierra Leone, il a rencontré les plus hautes autorités du pays, les employés onusiens, les personnels locaux et les ONG qui luttent contre l'épidémie. Des ONG dont le travail est parfois rendu très difficile par une partie de la population. C'était le cas hier à Kissoudougou, en Guinée forestière. Suite à l'apparition de 38 cas en 3 jours, Médecins sans frontières avait décidé d'envoyer une équipe sur place pour construire un centre de transit. Mais par peur d'être contaminés, des habitants ont refusé la mise en place de ce centre. Des centaines de personnes ont chassé le personnel et les officiels, mais ils ont également saccagé les installations. Gabriel Cassini est chargé de communication de MSF en Guinée.
Il faut dire que c'est extrêmement important de se rendre à un centre très tôt depuis le début des symptômes. Parce que si on se rend au centre dans les premières 48 heures, on a beaucoup plus de chances de survivre à la maladie. Les centres suivent toujours des règles de sécurité très strictes pour les personnels et pour les patients et pour la population autour. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de contamination.
Alors le virus Ebola existe depuis longtemps, mais ce qui est nouveau, c'est qu'à partir de la fin 2013, l'épidémie va se déclarer et se propager très rapidement, d'abord en Guinée, puis dans les pays avoisinants, Liberia et en Sierra Leone. Et ce qui est très particulier, Olivier Roger, c'est la panique qui va accompagner l'épidémie dans les pays concernés, bien entendu, mais aussi dans le monde occidental.
Oui, parce que une épidémie, c'est par définition un réceptacle à irrationalité. C'est-à-dire que finalement, le mal tombe du ciel sur une population et s'étend sans qu'on puisse y comprendre quoi que ce soit. Donc effectivement, lorsque les populations ne sont pas informées ou suffisamment informées, eh bien, cela ouvre la porte à toutes sortes d'explications. Et pour certaines populations, pour certaines personnes, les explications mystiques ou les explications religieuses valent tout autant que les rares explications rationnelles qu'un État qui ne connaît pas forcément cette maladie est en mesure de leur fournir.
Comment l'avez-vous vécu à titre personnel en tant que journaliste, hein, puisque vous êtes un des rares à y être allé?
Ce qui était très étonnant en Guinée, c'est que dès l'instant où les autorités ont compris les dangers, elles ont mis en place des systèmes d'information des populations, de précautions, d'informations très précises, très complexes. Et bien évidemment, une ville comme Conakry a pu échapper à un phénomène de maladie de masse grâce à la sensibilisation, notamment par voie de radio, la distribution d'eau de Javel et la mise en place de bons réflexes auprès des populations. Ce n'a pas été le cas en forêt où l'épidémie s'est déclenchée, où elle a été la plus virulente et où les populations sous-informées ont eu du mal à comprendre et à admettre ces médecins venus de l'Occident avec leurs habitudes incompréhensibles, leur combinaison de spationautes effrayantes aux yeux des populations et surtout qui procédaient à des interdits culturels très forts puisque les populations n'étaient plus en mesure de pouvoir inhumer leurs morts pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire que les médecins le faisaient pour éviter la propagation de l'épidémie, mais parfois sans explication. Et bien évidemment, ça a provoqué des malentendus, des violences, puisqu'il y a eu des morts en Guinée forestière. Et très rapidement, Médecins sans frontières, qui était à pied d'œuvre dans cette région et qui a été vraiment le fer de lance de la lutte contre l'épidémie d'Ebola, très rapidement, Médecins sans frontières a compris qu'il fallait recourir à une explication via notamment des anthropologues.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, une peur panique s'est emparée du 80 rue Camille Desmoulins, siège de RFI, la radio du monde. Tout le monde tremble, la psychose règne, à cause d'une chose, une seule, écoutez.
La maladie d'Ebola s'étend en Afrique de l'Ouest. Mais ensemble, nous pouvons vaincre le virus en nous protégeant.
Tous les jours, on nous martèle ce spot dans les studios, les couloirs, dans les ascenseurs. Partout, tu entends ces notes de balafon et ces mots qui te glacent le sang. Pourtant, tu es à Paris, mieux même, tu es à Issy-les-Moulineaux, pittoresque bourgade des Hauts-de-Seine, à des milliers de kilomètres de Monrovia, Freetown ou Nzérékoré. C'est-à-dire que tu n'as aucune once de raison de t'inquiéter, mon ami. Puis, un beau matin, tu arrives à la radio et tu apprends la terrible nouvelle. Après plusieurs jours, un reportage en Guinée, dans l'épicentre d'Ebola, Olivier Roger est rentré à la radio ce matin. Personne ne te l'a dit, hein, ce n'est pas la peine. Tu t'en es rendu compte tout seul en voyant tous les salariés de RFI France 24 MCD monter ou descendre des étages, en empruntant les escaliers et en délaissant complètement les ascenseurs, même pour ceux qui vont au dernier étage.
Alors...
Mais qu'est-ce qui se passe? Les ascenseurs sont en panne ou quoi?
Non,
mon ami, les ascenseurs marchent très très bien, mais personne ne veut monter dedans, car il paraît qu'Olivier Roger a emprunté l'un des 6 ascenseurs. Du coup, tout le monde dans les escaliers.
Mais pourquoi on l'a pas mis en quarantaine dans un centre de rétention pour sans-papiers?
Ben mon gars, il ne présente aucun symptôme. La durée d'incubation varie de 2 à 21 jours. Tant qu'il ne présente pas de symptômes, Olivier Roger n'est pas contagieux. Eh ben ça, un genre raisonnable et ayant fait de longues études, tous les journalistes de RFI le savent. Mais pourtant, regarde, toute la rédaction Afrique a précipitamment déménagé dans l'open space côté RER, laissant le côté court à Olivier Roger tout seul. Personne ne veut lui serrer la main ou lui faire la bise. On ne lui parle plus que par texto, Olivier Roger. Moi, il reste mon ami, mais sur Facebook. Mmh. Oh, mais Olivier Roger n'est pas seul dans le bureau. Qui est l'inconscient qui ose? Ah, c'est Sébastien Nemeth. Dis donc, oui, il paraît qu'il part bientôt en reportage au Libéria.
Alors, Maman, est-ce qu'il est loin de la réalité de... que vous avez vécu, Olivier Roger, franchement?
Pas tout à fait loin, parce que la question s'est posée de savoir si effectivement il fallait me mettre en quarantaine à mon retour de reportage. Certaines rédactions d'ailleurs l'ont appliqué à Paris, je pense au journal Le Monde notamment. Je crois qu'un des journalistes s'est arrêté de travailler 15 jours après son retour de zone Ebola.
Donc grosse peur, panique en Occident avec Ebola quand même.
Pareil, le même phénomène qu'en Afrique, c'est-à-dire le manque d'informations induit effectivement des fantasmes et des peurs irrationnelles.
Merci Olivier Roger. Alors c'est bien Sébastien Nemeth qui est parti à son tour au Libéria pour couvrir Ebola.
La maison ressemble aux autres, pourtant presque tout le monde l'évite. Le père est mort, puis 4 autres personnes ayant touché son corps. 8 survivants vivent pourtant toujours à l'intérieur, sans aucune quarantaine. Awa est une voisine. Dans sa pharmacie, elle confie sa peur.
On ne s'approche pas d'eux. On ne leur parle plus, car on sait que c'est Ebola. Je les vois depuis chez moi. Ils sortent librement. Des policiers sont venus, mais ils les ont insultés et les ont chassés.
Soudain, la porte de la boutique s'ouvre. C'est le frère cadet, John Namwe, un des survivants toujours dans la maison.
Notre père est mort d'hypotension, mais on dit qu'un sorcier l'a tué avec mon frère. C'est moi qui ai mis le corps de mon père dans l'ambulance, mais je vais bien. Si ça avait été Ebola, je serais déjà mort. C'est vrai, une femme est malade chez nous. On a appelé les urgences, mais personne ne vient.
Dol Soke habite Clara Town. Pour lui, cette tragédie a changé la vie du quartier.
Ce n'est plus pareil. Tant que des médecins ne leur donnent pas un certificat prouvant qu'ils n'ont pas le virus, ce sera comme ça. Ça prendra du temps pour que tout redevienne comme avant.
Awa termine avec une affirmation faisant froid dans le dos. La famille aurait enterré 4 de ses morts, violant le principe de crémation obligatoire. Sébastien Nemeth, Monrovia, RFI.
La famille a enterré le corps. Notre père est mort d'hypotension, mais c'est un sorcier qui l'a tué. Vous avez entendu ces phrases dans ce reportage, Jean-Pierre Dausson. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent ?
Oui, alors ça, bien évidemment, que les interprétations sorcellaires fonctionnent pour Ebola, évidemment. C'était le cas pour le sida avant. Hein. Il y avait surtout un certain nombre de maladies, surtout quand les personnes ont des manifestations, des symptômes d'amaigrissement, ils se vident eux-mêmes. Vous savez, le sorcier mange, le sorcier bouffe. Hein. Et donc, le fait d'être un corps qui tout d'un coup se rapetisse, etc., est un signe incontestablement de sorcellerie. Mais ce qui m'a frappé, moi, dans Ebola, puisque je suis allé en Guinée, mais vers la fin de l'épidémie, c'était que, en effet, il y a eu non seulement des mauvaises explications, mais les populations, d'abord, avaient des rapports avec le pouvoir politique, en Guinée en particulier, très mauvaises. Les gens de la forêt étaient très mal vus. Donc, dès que le pouvoir parle, il ne dit pas la vérité. Il dit autre chose, n'est-ce pas ? En plus de ça, ce pouvoir était, là, pour le coup, est lié à des puissances occidentales, alors qui s'illustraient par des ONG, mais aussi par des laboratoires, etc. Et en effet, cette façon qu'ont eu les experts de venir avec des tenues tout à fait spéciales ont donné l'interprétation de tout le contraire de ce que les gens voulaient faire, de ce que les humanitaires voulaient faire. C'était que, au contraire, ils voulaient prendre nos corps, ils voulaient prendre nos organes, ils voulaient prendre... Autrement dit, c'est une interprétation sorcellaire aussi, mais qui est attribuée à nous. Autrement dit, les sorciers, c'est nous. C'est-à-dire qu'on vient prendre du sang, on vient prendre des organes, on vient bouffer le corps des Africains. Et donc, il y a eu des humanitaires qui ont été tués. Alors, c'était plutôt des Guinéens, par exemple, de la Croix-Rouge, ou des gens qui ont été attaqués, que des Occidentaux. Mais les humanitaires qui étaient là, en principe, pour faire le bien, ont été perçus comme faisant le mal. Et donc, c'est ces inversions-là qui ont été mises en place, qui se sont diffusées dans le pays. Mais on a eu la même chose au Libéria et en Sierra Leone. Mais on avait eu déjà des choses semblables avec le sida. Autrement dit, de même que les laboratoires pharmaceutiques, les puissants, autrement dit, du monde entier, sont censés trafiquer. Et eux-mêmes sont des puissants qui, bien loin de faire du bien en inventant des bons médicaments, sont des gens qui utilisent en tout cas les pauvres que sont les Africains pour faire des choses, n'est-ce pas ? Eh bien, ces laboratoires sont des laboratoires suspects, en quelque sorte, de commettre des crimes. À propos des laboratoires pharmaceutiques en particulier, c'est une affaire qui prend un relief très fort en Afrique, mais qui, chez nous, peut le prendre tout aussi bien. Regardez ce qui s'est passé avec la grippe H1N1 et la vaccination. Il y a eu aussi chez nous des rumeurs incroyables.
Donc on l'a vu avec Ebola, vous le montrez également avec le sida. Alors j'en profite pour rappeler que contre le sida, le préservatif reste absolument nécessaire.
Bien sûr.
Bien que les églises, quelles qu'elles soient, continuent à l'interdire ou à dire qu'il y aurait d'autres façons de se protéger. Des églises avec des prophètes autoproclamé, Jean-Pierre Dausson, qui n'invite pas, donc je viens de le dire, à se protéger dans les relations sexuelles en mettant des préservatifs, les évangéliques, alors que c'est le seul moyen efficace, le dire et le redire. Voilà, alors après tous ces exemples, Jean-Pierre Dausson, moi j'aimerais que vous puissiez conclure sur votre vision de la modernité sorcière. Autrement dit, est-ce que vous voyez le 21e siècle comme un siècle sorcier ?
Mais écoutez, en tout cas, il est parti et j'espère qu'il n'en restera pas là. Parce que je souhaiterais que la modernité retrouve en quelque sorte des bases un peu...
Plus cartésiennes.
Liées aux Lumières en quelque sorte. Mais je pense qu'en effet, on est rentré dans une période assez obscurantiste. Hein. On le vit évidemment très fortement maintenant. Mais je dis modernité sorcière parce qu'en effet, aujourd'hui, les théories de complot, et théorie, c'est un mot trop beau pour le complot, mais disons, les interprétations complotistes ne cessent de se développer partout. Je veux dire, elles se développent bien sûr aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Quel que soit l'événement qui se produit, il y a une autre interprétation qui est donnée simultanément pour nier l'information qu'on reçoit. Alors bien sûr, les informations qu'on reçoit, quelquefois, ne sont pas bonnes, etc. Donc il y a de quoi alimenter, si vous voulez, les interprétations complotistes, incontestablement. Mais très vite aujourd'hui, systématiquement, tout fait, tout événement, C'est le cas du 11 septembre. C'est le cas de nos attentats qu'on a connus. C'est-à-dire, ce qu'on sait de ces attentats, ce n'est pas la vérité, etc.
C'est une interpellation politique que vous faites.
Oui, 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 bien évidemment. Mais évidemment. C'est-à-dire que la seule façon de contrer cette affaire-là, parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont face à ça, hein. Je veux dire, ils sont face à des mômes qui leur disent, mais non, c'est pas ça du tout ce que, voilà. Donc, il faut que la parole publique puisse à nouveau prendre de la consistance. Or, elle a perdu de sa consistance depuis quelques décennies.
À bon entendeur.
Voilà.
Merci Jean-Pierre Dozon. Je précise que votre livre « La vérité est ailleurs, sorcellerie et complot » est aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Le futur est-il sorcier ? C'était une marche du monde réalisée par Sophie Janin avec la complicité de Aurélien Moisard de la Sonothèque de RFI. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook et aussi à nous écrire à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr. Réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.